Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais beau, hein?
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était joyeux et bouleversant. J'avais envie de rire et de pleurer. D'ailleurs, je faisais les deux en même temps. Les applaudissements à la fenêtre pendant le premier confinement étaient des instants suspendus. Que ressentais-je précisément? J'essaie de comprendre aujourd'hui avec du recul. Bien sûr, il y avait l'envie de remercier les soignants, de leur hurler ma gratitude. Et puis ce monsieur à la fenêtre en face qui jouait du trombone à coulisses tous les soirs, c'était galvanisant. Mais je crois que ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était qu'on pouvait regarder les voisins chez eux. D'habitude, disons-le, quand on observe les gens de l'immeuble en face, on espère qu'ils ne nous verront pas. Et quand nos regards se croisent, hop, on tourne la tête. On a honte de notre curiosité. Là, pendant les applaudissements de 20h, il y avait des échanges de regards, de la complicité par fenêtre interposée. On assumait notre envie de se regarder les uns les autres et c'était chouette. Parlons voisinage ce matin. Que l'on habite dans un immeuble ou dans une maison, en centre-ville, en zone périurbaine ou à la campagne, cette relation est toujours singulière. Le voisin, c'est l'autre avec lequel on n'a pas choisi d'avoir un rapport d'intimité. Il nous fascine, il nous agace, il pique notre curiosité ou bien il nous est indifférent. Mais ce lien raconte quelque chose de l'être humain. C'est parti, nos voisins, ces chers inconnus.
Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct jusqu'à 10h, la première est écrivaine. Bonjour Agnès Mathieu-Daudet.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue sur France Inter. La ligne Wallace, votre dernier roman, est publié chez Flammarion. Et vous écrivez aussi pour les enfants. C'est ce livre, plutôt ces livres, parce qu'il y a deux tomes pour l'instant avant une longue série, qui nous ont donné envie de vous inviter ce matin. Ça s'appelle Les voisins, mode d'emploi, à l'école des loisirs, à lire à partir de 8-9 ans.
Oui, voilà. Même avant.
C'est l'histoire, même avant.
Toujours.
C'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve enfermée dehors. Il n'y a personne dans son appartement, alors la voilà obligée de sonner chez les voisins de son immeuble. Et c'est le début d'une aventure et d'une amitié inattendue. Le titre de ce livre, Les voisins mode d'emploi, est un hommage à Georges Perec et à sa vie mode d'emploi, le grand roman du voisinage. Est-ce que vous avez aussi, comme Perec, imaginé cette histoire en visualisant l'immeuble et ses différents habitants, en faisant des plans de coupe dans votre tête?
J'ai été obligée, puisque le personnage va parcourir tout son immeuble, mais je crois que par rapport à ce que vous venez de dire, il y a deux sortes de voisins. Il y a les voisins qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Et donc ceux qu'on ne voit pas, qui sont au-dessus, au-dessous, ou qu'on ne croise pas, parce qu'il y en a qui sont au-dessus, on les croise, mais parfois on ne connaît pas ses voisins du tout. Et alors là, l'imagination, voilà, c'est ce qui me plaisait, c'était à la fois la coupe, imaginer ce qu'on voit et ce qu'on voit par sa fenêtre, et puis ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on peut déduire de cette cohabitation.
Ce qu'on entend et qu'on ne voit pas est encore plus fascinant. Roman illustré par Charles Berberian, qui dessine avec beaucoup de talent les façades d'immeubles, soit dit en passant.
Et les gens qu'il y a dedans aussi. Je voulais des voisins quand même pas trop terrifiants, et donc les voisins de Berberian, on voudrait tous les avoir.
Une sociologue est avec nous également. Bonjour Léa Mesdagne.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes chercheuse rattachée au CERLIS, Centre de Recherche sur les Liens Sociaux. La sociologie urbaine et l'espace public font partie de vos thèmes de recherche. Et vous avez publié chez l'Harmattan, Jardiner entre soi. C'est une étude sur les jardins partagés. Ça fait un lien avec Agnès Mathieu-Daudet parce que le jardin partagé joue un rôle important dans son roman jeunesse. Est-ce que c'est un lieu de sociabilité entre voisins, le jardin partagé?
Alors justement, on pourra en parler, mais c'est un lieu de sociabilité entre certains voisins. Ce qui est toujours intéressant en sociologie, c'est de voir avec qui on interagit, avec qui on n'interagit pas. Et on pourra discuter du fait que le jardin, c'est un lieu où on recrée des sociabilités avec des gens qui nous ressemblent en général et souvent qu'on a choisi.
On évite de se mélanger donc entre torchon et serviette.
Un petit peu. Mmh. Et puis c'est vrai que ces voisins, par définition, on les choisit pas, tandis que dans les jardins, on choisit un petit peu ses co-jardiniers.
Ma troisième invitée est avec nous à distance. Bonjour Aurélie Champagne.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes scénariste et romancière. Vous avez publié aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture un roman intitulé Zébu Boy. Mais j'ai envie de vous présenter ce matin comme une collectionneuse. Collectionneuse de mots affichés dans les immeubles partout en France. Vous avez créé avec Olivier Volpi un blog génial qui s'appelle Chers voisins et qui expose les petits mots collés dans l'ascenseur, les affichettes de syndic, les insultes de voisins mécontents du bruit. Comment cette idée est-elle née?
De la manière la plus simple possible, en fait, on, Avec Olivier Volpi, donc, qui est avec qui je travaille, mais avec qui je partage ma vie. On habitait dans un immeuble parisien il y a quelques années, aux alentours de 2012, qui était un immeuble de fous furieux. Un jour, un voisin nous a laissé un mot qui se plaignait de nos orgasmes trop sonores. Et le mot disait en substance « Chers voisins, nous vous remercions de participer à la croissance de la population, mais nous vous serions encore plus reconnaissants de dormir le matin. » Et ce mot nous a fait beaucoup rire. On l'a arraché, en fait, et on l'a accroché dans le mur de notre cuisine. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à faire attention aux mots, donc, que les gens, aux petits mots que les gens laissent dans les parties communes, dans les ascenseurs, comme vous l'avez dit, dans les halls, etc., dans les boîtes aux lettres, qui sont des mots qui généralement finissent chiffonnés à la poubelle. Et nous, on s'est mis à les récupérer, et donc on se les offrait, hein, voilà, des mots vraiment qui étaient drôles. On se les offrait comme des cadeaux d'amoureux. Et on les a placardés sur le mur de notre cuisine, et assez rapidement, les copains qui passaient à la maison riaient aussi de voir ces mots. Là, la collection grossissait un peu, et ils se sont mis eux aussi à nous voler des mots. En fait, au début, on les volait, on les arrachait. Et puis, au bout d'un moment, on avait, je sais pas, une cinquantaine de mots, quoi, sur le mur de la cuisine. Le mur était devenu trop petit, donc, et on a ouvert un site internet. En proposant aux gens qui avaient envie de nous envoyer des mots de le faire.
Voilà, et ça a rencontré un succès considérable. Chervoisin.net, c'est l'adresse. Et on peut trouver également un florilège des mots les plus drôles dans Live Magazine, qui est en kiosque en ce moment, et notamment un mot qui est fabuleux, qui est peut-être le vôtre, d'ailleurs le premier mot, silence avec vos orgasmes, fermez la fenêtre.
Alors, c'est pas celui-ci exactement.
Mais il est du même acabit.
Ça rejoint, voilà, ça rejoint cette espèce d'obsession pour les bruits des voisins pendant l'amour.
Allez, j'attends vos témoignages et réactions, chers auditeurs et auditrices, par téléphone au 01 45 24 7000 ou par écrit sur notre site à la page de L'été comme jamais. Vous pouvez aussi nous laisser une note vocale sur l'application France Inter. C'est L'été comme jamais.
C'est l'été. Des concupiscences, le soleil te réchauffe les sens. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi serein, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal. C'est moi, le sera dit, ce serait toi. Des projectiles m'ont fendu l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes pas cher payé, si je peux te ensuite charrier. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et chaque dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir?
Souvent, on me demande mes trucs,
c'est quoi vos trucs,
mon secret,
vos secrets.
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être
ce que je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza, laquelle?
Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps chercher quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Tout de suite, ce serait toi. Big
l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
C'était Bertrand Burgala sur France Inter. Connaissez-vous le dilemme du porc-épic ? C'est une métaphore développée par le philosophe allemand Schopenhauer. Quand il fait froid, les porcs-épics se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Mais ils sont tous rapidement dérangés par les piquants des autres. Alors ils s'éloignent. Ensuite, ils ont froid à nouveau. Alors ils se rapprochent, mais ils se font mal à nouveau. Alors ils s'écartent. De la même manière, les êtres humains ont besoin de relations sociales. Nous sommes enclins à nous rapprocher des autres, mais les défauts des autres et nos incompréhensions nous éloignent. Etc, etc. Nous parlons des voisins ce matin et des voisines qui sont nos porcs-épics à nous dans l'été comme jamais avec la sociologue Léa Mesdag, avec Aurélie Champagne qui collectionne les mots laissés par les voisins dans les immeubles et avec Agnès Mathieu Daudet qui publie à l'école des loisirs Les voisins mode d'emploi, roman jeunesse en deux tomes illustré par Charles Berberian. Alors on a besoin de s'isoler, Agnès Mathieu Daudet, mais on a besoin des autres. Est-ce que vous y voyez un paradoxe ?
Oui, enfin c'est le paradoxe de l'être humain, je crois. On est tous, je pensais à l'île déserte. En fait, même sur une île déserte, on emporte ses voisins mentaux. Enfin, on pense toujours à l'autre, je crois. On peut pas, hélas, ou pas en faire l'économie. Et moi, c'est ce qui m'amusait aussi dans le livre. C'est, je me dis, les voisins, en fait, c'est le syndrome de Stockholm par excellence. Quoi. Mais sauf que c'est le supplice chinois aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a oui, c'est vraiment l'épine du porc-épic qui est répétée, mais on s'y habitue. Et je crois que je pensais au bruit, cette petite fille, moi, pour parler de mon l'expérience que je m'enseigne dans ce roman.
De votre héroïne.
Cette héroïne, elle est à la fois, elle ne connaît rien de son voisinage. Elle entend, elle a imaginé des tas de choses, et ça passe par le bruit. Et c'est le bruit qui va générer une enquête dans laquelle elle va rencontrer, elle va se lier avec ce voisin qu'elle a rencontré quand elle était enfermée dehors. Mmh. Le bruit dans le vide ordure. Alors moi, ça c'est je vous tenais à parler du vide ordure aujourd'hui.
C'est parce pas très que contemporain le vide ordure.
Alors voilà, c'est interdit maintenant, il paraît, parce que les rats, d'ailleurs elle le dit, les rats remontent dedans, ouais. Hein, c'est dégoûtant. Mais c'est, moi enfant, c'était le symbole de l'immeuble. Et il y en avait un chez mes grands-parents qui avait une maison privée. Et alors ça, le vide ordure, c'était, partager ce qu'il y a de plus intime. C'est-à-dire les ordures à travers le bruit, enfin c'est un truc...
Le voisin chez qui elle sonne s'inquiète, tes parents ne sont pas là, alors elle-même s'étonne qu'il ne soit pas au courant que ses parents sont divorcés. Il ne savait donc pas au-dessus pour le divorce, dit-elle. Ça ne s'entend pas, un divorce, des hurlements quotidiens remplacés par un grand silence.
Oui, alors je voulais parler effectivement de cette... les choses graves de la vie qu'on entend ou qu'on n'entend pas. On peut entendre la douche quotidienne, mais on ne sait pas que les gens sont séparés. On ne sait pas, elle ne sait pas que la mère de ce voisin est partie en EHPAD. Elle n'est plus là. Elle croit qu'il y a toujours monsieur et madame Martin. Madame Martin n'est plus là. Et je crois que, et elle a peur aussi d'aller frapper à la porte du dessous. Elle a peur de trouver sa voisine morte. Et je crois qu'il y a c'est ça qui est fascinant dans le voisinage, c'est qu'on est séparés par une mince cloison. Des catastrophes de la vie, et en même temps, on peut bénéficier des douches quotidiennes, quelque chose de...
Voilà un mot qu'on emploie peu au quotidien, mais qui est dans le dictionnaire et qui est employé par les sociologues, c'est le verbe « voisiner », Léa Mesdag. Est-ce que « voisiner », c'est entendre les bruits des autres ?
Alors, voisiner en sociologie, c'est plein de choses. Ça peut avoir différents niveaux de relations. Ça va être à la fois discuter dans l'escalier. Ça va être effectivement entendre les bruits des autres et puis interpréter ces bruits par rapport aux représentations qu'on a de ses voisins. Ceux qu'on, on en parlait au début de l'émission, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on imagine. Et après, ça peut aller dans des relations beaucoup plus importantes, comme par exemple le fait d'être invité à prendre un café, de s'aider pour les enfants, ce qui représente une grosse partie des relations de voisinage. Donc oui, en sociologie, on voisine de plein de manières différentes.
Le voisinage, c'est un sujet qui a été largement étudié par la sociologie, Léa Mesdag. Oui. Est-ce que le bruit est le sujet qui revient au premier plan ?
Alors le bruit, c'était quelque chose qui apparaissait dans une étude fondatrice des années 70 et qui montrait, qui s'appelait Proximité spatiale, distance sociale, et qui montrait qu'il ne suffisait pas de mettre des gens les uns à côté des autres pour qu'ils interagissent et pour qu'ils se supportent. Et notamment, l'un des éléments fondateurs, c'était le bruit de ses voisins qu'on n'allait pas supporter quand les voisins étaient distants socialement et qu'on interprétait justement ce bruit.
Et pourtant, ils font les mêmes bruits.
Préjugés.
Voilà, ils font les mêmes bruits que nous.
Mais on ne les lit pas pareil.
Magali, une auditrice, nous écrit ceci. J'habite une résidence en Seine-Saint-Denis. Pendant le premier confinement, je suis partie m'installer dans un pavillon avec un jardin et je me suis terriblement ennuyée, dit-elle. Pendant ce temps, dans ma résidence, les enfants jouaient ensemble, les parents se retrouvaient pour discuter, ils étaient confinés ensemble. Pour les autres confinements, je suis donc restée. On a instauré les pauses café des télétravailleurs et tous ceux qui le voulaient. Depuis, nous avons créé un potager. Il y a des apéros, on se rend des services, on garde nos animaux, les enfants, les plantes. Bref, j'aime beaucoup mes voisins. Voilà qui intéresse la sociologue que vous êtes.
Alors tout à fait, et ça correspond à un a priori qui a été récemment démonté par une étude sur la vie pavillonnaire dans laquelle il n'y aurait pas du tout de voisinage. Et il y a eu une grosse étude qui a montré que si, il y avait aussi des pratiques de voisinage et notamment des apéritifs.
Donc là, c'est une résidence
dans
plutôt.
Les régions. Ouais. Alors oui, ouais. C'est une résidence. Après, effectivement, la densité de la vie sociale est beaucoup plus forte dans un immeuble. Et c'est vrai que quand on y est habitué, moi j'étais très étonnée par tous ces gens qui partaient vivre très loin. Et je me disais qu'il y avait un idéal de l'isolement qui était très étonnant pendant le confinement. Et alors moi, c'est pour le coup moins sociologique, mais plutôt personnel. Moi, ça me rassurait plus d'être entourée de gens. Je me disais que si c'était la fin du monde, il valait mieux être avec des gens autour plutôt qu'isolés. Mais justement, là encore, ça révèle les représentations sociales qu'on a.
Voilà, ça raconte là aussi un peu notre humanité. Aurélie Champagne, depuis plusieurs années, on le disait avec Olivier Volpi, vous publiez des mots de voisins, des affichettes collées dans le hall de l'immeuble ou dans l'ascenseur pour se plaindre du bruit, souvent de la saleté parfois, pour prévenir qu'on va faire une fête aussi parfois. On peut en voir un florilège dans Live Magazine qui est en kiosque. C'est pas vous qui prenez en photo ces mots, ce sont les gens qui vous les envoient. Est-ce que vous sauriez dire combien vous en avez reçu en tout ?
Alors, on n'est pas très bien organisé en tant que collectionneur, mais disons que à la louche, depuis 2012, on a reçu à peu près 15 000 mots de voisins. Alors, ils viennent de France, mais pas seulement. On a aussi des mots anglophones, des mots qui excèdent les frontières de la France, des mots belges, on en a pas mal, des mots espagnols. Voilà, ce qui est assez assez rigolo, en fait, c'est qu'on reconnaît assez vite leur provenance. Par rapport à ce qu'on disait juste avant, on identifie assez facilement les mots parisiens, ou en tout cas les mots où la densité, en fait, est importante. Des mots périurbains, des cités, et des mots de pleine campagne. Un
peu, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être parmi ceux qui vous font le plus rire?
Alors, moi, personnellement, j'ai un petit faible pour les mots de voisins repentants. C'est-à-dire les voisins qui font la fête trop fort ou qui s'emportent et puis qui s'excusent le lendemain. Mais au nom de mon co-collectionneur, Olivier Volpi, je vais vous lire son préféré à lui, qui est un mot parmi les premiers qu'on a reçus, je crois, qui dit « Cher livreur des colis-postes, en déposant sournoisement un avis de passage dans ma boîte aux lettres alors que je t'attends avec impatience dans mon atelier, tu me signifies que tu aimes jouer au con. Sache que cela nous rapproche, car moi aussi, j'aime énormément ce jeu avec quelques beaux succès à mon actif. Comme tu te fais très discret, ça ne va pas être facile de te mettre la main dessus, mais si j'y parviens, alors je ferai comme chez moi, en Corse, je vais te clouer sur une planche, et lorsque tu seras bien sec, dans quelques temps, on verra qui rigole le plus. À très bientôt, je t'aime déjà.
Fabuleux celui-là.
Ce
qui est formidable, Aurélie Champagne, c'est qu'à chaque fois, c'est un instantané, une petite fenêtre finalement sur la vie d'un immeuble, et on peut imaginer tout ce qui va autour.
Oui, nous, c'est ce qu'on on est très attaché à cette petite collection qui est très humble. Hein. C'est-à-dire, nous, on n'est pas sociologue, on n'est pas.
15 000 pièces, quand même, c'est une sacrée collecte. Hein.
Alors 15 000 pièces, c'est 15 000 mots reçus. Globalement, on en a publié en ligne actuellement et dans nos petites anthologies, éditées sous forme de livres. En tout, on en a publié à peu près 4 500, ce qui est déjà assez colossal, et ce qui implique un travail en fait de curation, de sélection, de vigilance assez colossal. Nous, ce qu'on aime, c'est que, en fait, de manière assez naturelle, on se situe, quand on a un mot de voisin, d'un côté ou de l'autre du mot. On se met soit à la place de celui qui l'écrit, soit à la place de celui qui le reçoit.
On choisit son camp.
Un petit peu, oui. On se reconnaît, en fait. On reconnaît assez vite, on identifie assez vite des situations. Pour de thèmes, c'est toujours assez obsessionnel, hein. C'est le vol de poussette, le vol de paillasson, le vol de culotte qui tombe par la fenêtre, le bruit des enfants, les enfants des autres, hein, sont assez problématiques généralement, et puis la propreté aussi, fait vraiment partie des grandes obsessions du voisinage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on relève dans notre collection, mais c'est aussi une collection qui est traversée par l'actualité, par je sais pas, une forme de culture populaire. Vous voyez, quand Kim Kardashian se fait cambrioler, on va avoir un mot qui fait écho, qui fait référence à ça. Mais il y a aussi je sais pas, ça peut être les attentats de Charlie Hebdo, comme évidemment le confinement ou la Coupe du Monde de foot. Sont vraiment d'une actualité qui est très perceptible, quoi, très sensible dans la collection.
Allez, j'en cite encore deux que j'aime beaucoup. Ce monsieur qui a mis une affichette sur sa boîte aux lettres: merci d'arrêter de mettre des graines dans notre boîte aux lettres. Et ce pauvre monsieur s'appelle Moineau. Monsieur Moineau, on met des graines dans sa boîte, le pauvre. Note à la personne qui joue du piano, encore un autre mot: la lettre à Élise, c'est beau, mais Beethoven, c'est pas à la portée de tout le monde. Et ça fait 6 mois que tu t'entraînes sur ce putain de morceau. STP, lâche l'affaire, joue autre chose de plus simple, bisous. Alors moi, je pense à Anne Sylvestre et à sa magnifique chanson qui s'appelle L'estre ouverte à Élise, qui est à peu près du même acabit. Vous y voyez une forme de mépris de classe, peut-être, Léa Mesdag, de ce mot contre le pianiste d'à côté?
Oui, en tout cas, il y a une volonté de montrer qu'on a reconnu le morceau et qui fait partie de la culture légitime, donc c'est assez intéressant. Je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir citer Bourdieu, là on y est. Mais je rebondis sur ce que disait Aurélie, et je m'étais en train de me dire que, mine de rien, la rédaction des messages adressés aux voisins, c'est aussi une manière de se mettre en scène. Et donc, effectivement, de mettre en scène sa maîtrise ou non d'une culture, de mettre en scène son style de vie en stigmatisant celui des autres ou en le valorisant, parce que ça peut être aussi un mot valorisant. Mais en tout cas, c'est pas anodin. Et puis j'imagine aussi que le lieu où est accroché le mot, je pense à une de mes voisines qui avait écrit un mot sur la porte et pas sur la boîte aux lettres, alors que le mot s'adressait à quelqu'un de précis. Donc il y avait aussi là cette démarche de vouloir que le mot soit lu par tous.
Et puis il y a ceux qui corrigent les fautes d'orthographe dans les mots affichés.
Oui, tout à fait. Alors là, on est en plein dans le mépris de classe, un petit peu. Et puis,
qu'est-ce qui nous empêche en général de s'intéresser aux voisins ou de pousser leur porte? C'est la timidité.
Bretodo, pas Bredotto. Venez.
Ah. Depuis 5 ans que j'habite ici, c'est la première fois que je vous croise.
Ah ben, je ne sors jamais sur le palier. J'ai pas envie de rencontrer n'importe qui. Puis y a rien que des cloportes. Entrez. Vous savez, on m'appelle l'homme de verre. Mais mon nom, c'est Raymond Dufayel.
Amélie Poulain, je suis serveuse.
Oh, de Moulin, je sais. Et là, vous rentrez bredouille de la chasse au bretodo. Parce que ça n'est pas d'eau, c'est tôt, comme Toto.
Comment il s'appelle déjà ce film de Jean-Pierre Jeunet? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Audrey Tautou, pardon pour ce blanc. Agnès Mathieu Daudet, c'est impressionnant quand on y songe à quel point le voisinage nourrit l'imaginaire des artistes. Que ce soit des films, des romans, des chansons, il y a des voisins partout.
Oui, alors je rigolais en écoutant le petit mot cité par Aurélie Champagne. Le type qui n'a pas son colis et qui se voit déjà dans la mafia sicilienne, enfin, il y a quelque chose... On invente tous, et je crois que moi qui parle tout le temps, qui écris tout le temps, je me retiens de pas écrire partout. Enfin, j'écris des mails à la copropriété, ce qui agace tout le monde, mais je me retiens de ne pas en punaiser partout. Oui, le voisinage, c'est une source de fiction absolument incroyable. On invente ce qu'on ne voit pas, donc forcément...
Mais c'est presque trop facile, parce qu'on les a à portée de main, les voisins.
Oui, mais on n'a pas tout, on voit pas tout, et c'est ce que j'aime dans dans la fiction qui naît du voisinage. On va reparler de Pérec, mais par exemple aussi dans tout ce qui est cinéma, évidemment il y a Fenêtre sur cour. Je pense
que Pérec a été film d'Hitchcock, l'histoire d'un journaliste qui est en fauteuil roulant, coincé avec la jambe cassée et qui se met
avec
à observer les voisins.
Ce qui est quand même déjà confortable.
Oui, avec un appareil photo à téléobjectif, assez impressionnant. Hein.
Et c'est vrai que alors il y a ce qu'il voit, et puis il y a tout ce qu'il ne voit pas, tout ce qui est hors champ, et c'est ça qui est fabuleux avec la représentation cinématographique de ce mystère du voisin. C'est tout ce qu'on ne voit pas, et c'est pareil quand on regarde par la fenêtre, on ne voit pas tout, ou on n'entend pas tout, comme j'ai dit. Et alors évidemment, il va suspecter des choses affreuses, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas jusqu'à... Bon, et ça, il y a des films qui jouent là-dessus aussi. Il y a Le Locataire de Polanski, qui est un film qui m'a terrifiée. Parce qu'il joue sur ce regard... ce qui m'intéresse, c'est que ça vient du... Il y a cette ambiguïté du panoptique hein, qui a chez Bentham et qui a tant plu à Foucault, cette idée que pour surveiller les autres, enfin ce panoptique qui avait été inventé quand même pour les prisons, d'avoir un gardien qui voit tout et en se disant le regard des autres va m'empêcher de faire des bêtises.
C'est le contrôle social.
Voilà, il y a le contrôle social dans cet immeuble tout le temps. On est toujours en train de se dire les autres me regardent, les autres me croisent, imaginent des choses, entendent des choses, et nous on imagine des tas de choses à partir de ce qu'on voit d'eux. Alors après il y a la fiction qu'on peut élaborer. Elle peut avoir des... Alors moi, je le fais dans des livres. Le personnage chez Hitchcock va se retrouver quand même en danger de mort. Il termine avec les deux jambes dans le plâtre. Donc il y a quand même une petite punition à la curiosité qu'on a.
Et il y a un hommage à Hitchcock au passage.
Voilà.
On choisit son camp également dans ce film. En tout cas, au début, on trouve qu'il y va un peu fort à espionner ainsi les voisins. Puis finalement, on se dit, ah, peut-être qu'il a bien fait. C'est pas très net ce qui se passe en face. Donc là encore, il y a une forme d'ambiguïté.
Et c'est ce qui se passe aussi dans le film de Polanski. C'est que finalement, le regard des voisins pousse au suicide. Est-ce que c'est ce seul regard? Est-ce qu'ils ont fait autre chose ou pas? Ou est-ce que ça suffit? Et parfois, je pense que la pression sociale suffit à nous faire n'importe quoi. C'est ce qui m'intéressait moi aussi comme source de fiction.
Nos voisins et voisines, ces chers inconnus, on poursuit dans un instant cette exploration du voisinage.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Les gens sont parfois bizarres. People are strange. The Door sur Inter.
France Inter. L'été comme jamais.
Et nous causons voisinage ce lundi matin avec Agnès Mathieu Daudet, romancière, avec la sociologue Léa Mesdag et avec Aurélie Champagne qui collecte sur le site chervoisin.net les plus jolis, les plus drôles, les plus agressifs mots de voisins collés dans les immeubles. Aurélie Champagne, parfois l'humour permet de prendre du recul, mais il y a beaucoup d'agressivité dans ces mots. C'est aussi une manière de rire des bassesses humaines, votre entreprise de collection des mots d'immeubles.
Oui, en tout cas, c'est une conséquence. C'est-à-dire que, effectivement, si vous prenez un simple mot, vous pouvez être absolument terrifié par la vachardise, une forme de méchanceté, une forme de représailles de la part du voisin qui écrit le mot, ou du voisin dont on se plaint. C'est-à-dire qu'on a l'histoire, par exemple, de lapin balancé dans le vide ordure, hein, pour reparler du vide ordure, qui sont assez terrifiant. Et en même temps, à l'échelle de la collection, si on prend le corpus global de la collection, on se rend compte qu'il y a une forme de mise à distance de ces colères et que finalement, cette grogne collective est extrêmement drôle, en fait.
Et puis c'est cathartique, en l'écrivant, ça va déjà mieux, peut-être.
Alors, en théorie, oui. Enfin, en tout cas, il y a une forme de passage à l'acte dans l'écriture du mot. C'est-à-dire que souvent, on sent que le voisin qui écrit le mot ronge son frein depuis quand même pas mal de temps et qu'avant de prendre la plume, il a un petit peu cogité à ce qu'il a dit. Ou à l'inverse, c'est un voisin qui a craché sa rage, parfois même en se passant de support papier, c'est-à-dire qu'il a écrit sa plainte à même la porte. Mais effectivement, il y a une forme de colère qui se convertit en rire, d'une espèce de mise à distance assez efficace.
Avec beaucoup de majuscules, de mots soulignés, de choix de couleurs, de fautes d'orthographe parfois. La forme n'est jamais un détail, Aurélie Champagne.
La forme est toujours assez parlante, c'est-à-dire que ce soit... Nous, en fait, on assiste à une forme de créativité de la part des voisins à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, sur le plan formel, une grande variété. Il y a des voisins qui écrivent des poèmes, il y a des voisins qui dessinent, il y a des voisins qui vont chercher des références. Alors là aussi, on peut y voir une forme de mépris de classe, peut-être, mais on peut aussi y voir la volonté de créer une espèce de milieu où on se sent bien et on va vérifier que l'autre, en fait, comprend ce qu'on dit. Vous voyez, elle est même un peu les mêmes codes. Sur le registre aussi, il y a beaucoup de variétés, c'est-à-dire qu'il y a de la colère, mais pas seulement. Souvent, on retient la colère dans notre petite collection, mais il y a aussi énormément
de solidarité.
De solidarité. Et notamment, vous voyez, depuis le premier confinement, sur Internet, il y a eu un certain nombre, enfin notamment un mot qui a beaucoup circulé, qui était un mot épouvantable, qui était en gros un voisin qui se plaignait de sa voisine infirmière et qui lui demandait de ne pas revenir dans l'immeuble. Alors ça, c'est évidemment toujours très glaçant, mais en fait nous, on constate qu'à l'échelle de notre petite collection, on a reçu quantité de mots qui, à l'inverse, propose en fait du lien, une forme de solidarité, que ce soit, je sais pas, il y a un voisin par exemple qui proposait d'ouvrir des playlists où chaque voisin pourrait noter le nom de son morceau préféré, et lui-même, le voisin qui écrivait le mot, se proposait d'envoyer du son très fort le soir, tous les soirs à 18h, pour que chacun s'y retrouve dans cette playlist. On a des échanges de services, etc. On n'est jamais vraiment là où le voisinage n'est pas jamais totalement là où on l'attend, en tout cas à l'échelle de notre collection.
Je donne la parole à la sociologue Léa Mesdag. Est-ce que la crise sanitaire, en effet, a changé notre manière de voisiner ?
Alors oui et non. Déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Aurélie Champagne, parce que je trouve ça très intéressant, notamment sur la question du conflit. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire qu'il y avait des mots effectivement agressifs, mais ça fait partie du lien social, le fait de se confronter aux autres, le fait de faire part de ces petits agacements et de ces petites rigidités. Donc c'est assez fin. En tout cas, sociologiquement, moi je trouve qu'il y a de l'échange et il y a de la vie sociale. Ce qui s'observe, alors c'est compliqué de le dire par rapport à la crise sanitaire parce qu'on n'a pas énormément de recul. Mmh. Il semble pas qu'il y ait eu une très grosse augmentation des pratiques de voisinage qui sont très très stables depuis les enquêtes des années 70. Donc finalement, on voisine beaucoup en France. On a tendance à dire le lien social se délite, etc. Mais il y a vraiment une stabilité des liens sociaux de voisinage, donc on ne les perd pas.
C'est assez contre-intuitif, en effet.
Exactement. Mmh. Et à l'échelle de la crise, on n'a pas constaté de véritable augmentation ou diminution de ces pratiques de voisinage, en tout cas pour ce qui est paru pour l'instant. En revanche, il y a eu une publicisation de ces pratiques de voisinage, puisque sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., on a énormément valorisé cette question du lien social de proximité. Ce qui dit quelque chose aussi, je pense, de notre époque, qu'on a besoin de se rassurer sur le fait que le lien social existe, quand bien même il était déjà là, finalement.
Nous recevons des messages d'auditeurs et auditrices sur le site de France Inter. J'ai rencontré l'homme de ma vie par voisinage, nous écrit Véronique. Nous nous sommes rencontrés dans la cage d'escalier, par nos allées et venues, et les sons provenant des appartements, nous apprenions des petites choses l'un de l'autre jusqu'au moment où j'ai fait le premier pas, en lui demandant de porter ma bouteille de gaz. Ça fait 34 ans que nous vivons ensemble et nous avons deux grands-enfants. Bon, merci Véronique pour ce joli message. Sandrine nous signale que dans le nord de la France, il y a un verbe qui décrit le fait d'observer les voisins en ayant l'impression de ne pas être vu. On appelle ça « zouler ». Voilà, le héros de Fenêtre sur cour, Hitchcock, pratique le zoulage. Donc, à Paris depuis 25 ans, dit-elle, j'adore zouler chez les voisins. Une auditrice au Standard d'Inter. Bonjour à vous, Jeanne.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Quelle relation entretenez-vous avec vos voisins et voisines ?
Pratiquement pas beaucoup, dans la mesure où je suis isolée géographiquement et dans la commune. Mais le voisinage n'est effectivement jamais là où on l'attend. À savoir ma peu près unique voisine avec qui j'avais des relations épouvantables, plus qu'épouvantables et surtout très violentes. Au mois de mars dernier, au moment du Covid, m'a appelé un soir pour me dire, voilà, vous avez été maîtresse d'école, ma petite fille est en grande difficulté, accepteriez-vous de faire quelque chose ? J'ai à peine pris le temps de réfléchir et depuis mars, je prends cette petite qui était vraiment en grande difficulté, dyslexie, dysphasie, enfin tout y était, à raison de 2 séances bénévoles par semaine. Et au jour d'aujourd'hui, il paraît que ça ne se dit pas.
Mais dites-le.
Aujourd'hui, avec enthousiasme. Ma petite, elle passe en CE2 sans difficulté majeure. Pour moi, ça a été une récompense énorme. Nos relations sont harmonieuses, tout va bien. Et aujourd'hui, je souhaite bon anniversaire à cette petite, justement.
Comment elle s'appelle ?
Je préfère rester
bon, d'accord, pardon.
Peu sous silence par respect pour la famille.
Bien sûr, merci beaucoup, merci pour cette belle histoire, Jeanne. Voilà une histoire de voisinage qui nous enchante, Agnès Martin-Daudet.
Mathieu Daudet, je me permets. Parce
que je vous en prie, excusez-moi.
Parce que justement, les voisins le font aussi. On a de vrais problèmes quand on a un nom double.
Là, non, j'aime bien avoir des... C'est le début d'un roman, ça, quand même, cette histoire.
Qui est ces témoignages positifs. Parce que je me disais, moi qui suis quelqu'un de très négatif, mais j'ai quand même écrit un livre où l'héroïne se retrouve effectivement à approcher un voisin, et c'est une histoire d'entraide. Mais il y a cette question de l'inconnu. Alors, la mère de l'héroïne part, est pilote d'avion, elle n'est jamais là, et donc elle lui dit tout le temps, la plaie du monde moderne, c'est de ne pas connaître ses voisins, mais elle s'est bien gardée de lui en présenter aucun, parce qu'elle n'aime pas aller aux réunions de copropriété, on la comprend, et donc l'héroïne va se retrouver, rencontrer ce voisin, elle ne sait pas si elle a le droit d'aller sonner chez un homme, mais sa mère lui interdit toujours de s'approcher des hommes, et elle dit, est-ce qu'un voisin c'est un inconnu ou pas ? Et il y a cette question effectivement je pense qui pourrait basculer dans l'inquiétant, enfin c'est quand même, le voisin c'est l'inquiétante étrangeté, enfin c'est vraiment, c'est presque freudien, enfin, il y a quelque chose de ce qui est familier qui peut devenir très inquiétant, et à l'inverse, ce qui est très éloigné, l'inconnu, peut devenir familier.
Vous le savez sans doute, hein, les confinements et couvre-feux ont eu un effet spectaculaire sur les ventes de puzzles. On s'est mis frénétiquement à reconstituer des tableaux et des photos de paysages. Est-ce qu'on réalisait qu'on était nous-mêmes, chacun chez soi, les pièces d'un puzzle ? C'est ainsi que l'écrivain Georges Perec envisage un immeuble dans son roman « La vie mode d'emploi ».
Le point de départ du livre, c'est une maison, c'est la description d'une maison.
Une maison, une petite maison ou un immeuble ?
Non, un grand immeuble. L'image du plus me sert, actuellement, dans le livre que j'ai en préparation, c'est le point central. Enfin, c'est l'histoire d'un homme qui résout des puzzles, et d'un homme qui les fabrique, et c'est aussi, le livre entier est fait comme un puzzle. Enfin, est construit comme un puzzle dont chaque chapitre sera une pièce de ce puzzle.
Georges Perec en 1976. Alors, son roman s'appelle « La vie, mode d'emploi » et ça raconte un immeuble. Il y a cette idée qu'en parlant de voisinage, on raconte quelque chose de la vie, quelque chose qui serait bien plus vaste que cet immeuble, une forme de vérité humaine.
Oui, je suis pas une oulipienne, pas tentée. J'aimais l'idée, enfin, je sais que Perec tenait beaucoup à cette idée de, pas forcément dire l'intégralité du monde, mais l'intégralité de ce fragment du monde qu'il avait choisi. Et je crois que c'est là que l'idée de la coupe revient, un fragment
la maison
pour dire
coupée,
le monde.
Hein.
Voilà. Et je crois qu'il y a une fascination dans la littérature, pour notamment jeunesse, pour cette coupe. On voit des tas de livres avec des coupes de familles, d'animaux, d'humains. Voilà. Et quand on est enfant, on joue à la maison de poupée. Et la maison de poupée, c'est vraiment ce microcosme. Et je pense qu'il y a un fantasme quand on commence à penser à son immeuble, un peu démurge, on a envie de contrôler. Et quand on écrit, on met ça en place. C'est ce qu'a fait Pérec. Mettre en place... Alors, j'aime beaucoup comment il dit « puce ». Enfin, j'arriverai pas à le faire.
C'est génial.
Mais je crois que c'est vraiment ça qu'on fait. On reconstruit, effectivement, et qu'on parle ou pas de voisinage et de maison de poupée. Et cette fascination, on la retrouve. J'ai parlé du cinéma, je pensais à Wes Anderson, enfin, des gens comme ça qui arrivent à recréer des univers. Et c'est sûr qu'en termes de fiction... c'est un ouvroir complètement fou.
Enfin,
moi, ça m'empêche de travailler parce que je suis tout le temps en train d'imaginer ce qui se passe autour et ce qui se passe. Je crois qu'on a ça et partout où on va.
On vit donc dans un puzzle, voilà, à la Pérec. D'ailleurs, Pérec insistait sur les gestes similaires effectués au même moment par des gens qui vivent si proches dans son roman. Et il écrit quelques dizaines d'existences simultanées qui se répètent d'étage en étage, d'immeuble en immeuble et de rue en rue. Les existences simultanées, voilà ce qui nous fascine. Mais ça doit faire un peu tiquer la sociologue. Parce qu'un immeuble raconte pas vraiment la vie, Léa Mestag. Ça raconte un quartier, ça raconte un milieu social, ça raconte un lieu.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'allais rebondir en disant les voisins, c'est aussi ce qu'on se définit comme étant un voisin. Parce que moi, je vois des gens autour de moi qui considèrent leurs voisins comme étant des gens de deux immeubles plus loin, mais parce que voilà, c'est ceux avec lesquels ils échangent, c'est ceux qui vont croiser dans les commerces, c'est ceux qui vont avoir les mêmes horaires qu'eux et donc les fréquenter dans les mêmes rues au même moment.
Et pas ceux du palier.
Mais pas ceux du palier forcément. Et après, vous avez raison, il y a un microcosme social dans chaque immeuble. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on voisine avec des gens qui sont proches de nous socialement. Donc ce qui casse un petit peu ce fantasme du voisinage qui permettrait de rencontrer ceux qu'on n'a pas choisi. Alors après, c'est toujours compliqué de savoir les raisons. On note en socio que dans tout le monde social, on fréquente de toute façon des gens qui nous ressemblent pas mal. Donc il y a une logique sociale de base là-dedans. Et puis après, il y a des questions d'horaire, il y a des questions de répartition des statuts d'occupation des logements. C'est-à-dire qu'en général, on sépare un petit peu les gens qui sont propriétaires, les gens qui sont locataires dans les plans de ville. Donc il y a aussi ça qui fait qu'on va pas croiser les mêmes personnes au même moment.
Ma nièce de 10 ans, nous écrit Pauline, joue de la clarinette et mon neveu du trombone. Ayant entendu d'autres voisins jouer de la musique, elle a laissé un mot pour proposer un rendez-vous pour se retrouver. Ils ont commencé à monter un orchestre. Voilà une bonne manière de transformer des bruits parfois gênants, écrit cette auditrice. Un auditeur est au bout du fil en direct. Il s'appelle Jack, je crois. Bonjour à vous, Jack.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Racontez-nous une histoire de voisin.
Ah ben j'ai pas d'histoire de voisin, j'en ai plein. Mais je veux dire que les rapports de voisinage peuvent être beaucoup plus simples que ce que vous décrivez dans les petites villes, dans les bourgades, dans les bourgs, dans les villes moyennes même, et puis surtout à la campagne. On choisit pas ses voisins. Moi je suis à la veille. Il faut pas se fâcher avec ses voisins, c'est les premiers qui sont de la famille, quoi. Tellement on échange, tellement on se voit à la boulangerie, on se voit partout, dans les fêtes, on se salue, même de loin, ou on prend un pot ensemble, c'est beaucoup plus convivial. Le rapport de voisinage, de mon point de vue à moi, de ce que je connais moi du voisinage. Et pourtant, j'ai habité dans des grandes villes, mais ce voisinage de la campagne, de la petite ville, c'est un voisinage de proximité. Tout le monde se connaît.
Voilà,
tout le monde se dit bonjour, se parle.
C'est plus facile, d'après vous, dans votre expérience.
Excusez-moi. Oui. Il y en a qui sont beaucoup plus... vous avez des voisins avec qui vous êtes beaucoup plus proches. Je ne parle pas géographiquement, mais de par les rapports qui sont plus simples avec les uns ou avec les autres. D'autres, ceux-là, ils sont compliqués. Oui, bon, ça, c'est vrai, ça existe. Mais tout le monde se salue et tout le monde se connaît. Voilà, il n'y a pas de différence. Votre émission, c'est pas une critique, elle est surtout faite pour les grandes villes.
Eh bien non, parce que vous êtes intervenu. Merci à vous, Jack. Très bonne journée. Merci pour ce joli témoignage. Léa Mestag, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de différence, en effet, dans les relations de voisinage, selon qu'on soit en ville, à la campagne ou en zone pavillonnaire?
Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes enquêtes. Donc, c'est difficile de faire une comparaison quand on n'a pas les mêmes enquêtes. En revanche, ce que disait Jack me faisait penser à un monsieur, une fois, qui venait de Turquie, qui était quelqu'un que j'avais rencontré dans mon travail, et qui disait exactement la même chose que lui, qui disait « Mon voisin, en fait, c'est ma famille. famille, parce que ma famille est en Turquie. Et finalement, si j'ai un problème, je vais demander à mon voisin. Et ça me permet de rebondir sur une autre donnée qui est assez contre-intuitive, c'est que ce qu'on remarque dans les quartiers populaires, avec beaucoup de mixité de provenance géographique des personnes, c'est qu'en général, elles ont tendance à voisiner avec des gens qui ne sont pas du même pays qu'elles à l'origine. Donc ça nous permet aussi de démonter cette idée de communautarisme ouais. qu'on aurait dans les quartiers populaires qui ne correspond pas du tout aux statistiques. Après, pour faire une comparaison, vraiment, alors j'ai pas connaissance d'enquête qui permette de la faire.
L'été comme jamais. Dorothée Barba sur France Inter.
I've been posing with red skies, retweeting picket signs, put my name on petitions, but I won't change my mind.
C'était Joy Crooks sur France Inter. Nous avons parlé voisinage ce matin avec mes trois invités et j'ai à présent une dernière question à leur poser, question rituelle parce que nous faisons l'éloge du doute ici tous les matins. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Aurélie Champagne.
Alors moi j'ai changé d'avis ce matin au petit déjeuner sur le bol breton.
Ah, qui est les bols avec le prénom.
Les prénoms dessus, voilà. Et j'ai longtemps trouvé ça un peu ringard, un peu kitsch. Et puis ce matin, en fait, je me trouve dans une maison où il y a une armoire. Et à l'intérieur de cette armoire, il y a 200, à peu près 200 bols bretons. Wow. L'armoire en est pleine. Alors, il y a plein de prénoms, Nicole, Adèle, Lucie, Raymond. Et je me suis dit ce matin, quand même, je trouvais ça sacrément émouvant, en fait, d'imaginer toutes ces générations défilant à la même table du petit déjeuner. Voilà, donc je fais ma petite révolution sur le bol breton ce matin.
C'est beau, cet inventaire des prénoms. Même question, Agnès Mathieu Daudet, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Oui, alors, le bol breton aussi, mais et d'abord sur l'idée que je ne changeais ou que je changeais d'avis tout le temps. D'abord, je me suis dit, mais non, mais je change d'avis tous les jours, c'est pas possible.
Et après,
je me suis
choisir.
Dit, mais non, je n'ai rien trouvé, je ne change jamais d'avis. Donc là, il y a deux questions qu'il va falloir que je règle ailleurs que sur ce plateau.
Allongez-vous, on va en parler.
Et donc, j'ai trouvé quand même la tongue. Alors, je pense que c'est de saison en plus. Mm-hmm. J'ai longtemps détesté les tongues. Elles étaient portées par des gens que je déteste. Il y a peu de gens que je déteste, mais ils portent des tongues. Et j'ai trouvé ça affreusement moche, inconfortable. Enfin, c'est affreux. Et j'ai découvert qu'en fait, parce que moi, on parlait de lapin dans le vide d'ordure. J'ai un lapin, il a mangé une de mes tongues. Et je me rends compte que je ne peux pas vivre sans mes tongues.
Ah, bah voilà. Changement d'avis.
Je suis désolée
pour cette
anecdote très personnelle.
Léa Mesdag, même question. Sur quoi avez-vous changé d'avis ?
Alors moi, je vais partir sur un sujet un peu moins positif. J'ai changé d'avis sur mon métier, que j'ai toujours considéré, enseignant-chercheur, le meilleur métier du monde. Et que suite aux 15 ans de changements politiques, et notamment les derniers, je trouve que c'est un métier qui devient vraiment dramatique et que la condition d'étudiant devient vraiment dramatique. Voilà, donc c'est pas une note très positive, mais je trouve que c'est important
c'est
de le dire.
C'est un message politique que vous vouliez passer. Votre livre sur les jardins partagés, Léa Mesdag, est à lire chez L'Harmattan. Jardiner entre soi, fou rire assuré en se connectant sur le site d'Aurélie Champagne, chervoisin.net. Vous trouverez un lien à la page de l'émission sur le site de France Inter. Et puis, Les voisins, mode d'emploi, roman drôle, savoureux, très touchant, en deux volumes à l'école des loisirs, signé Agnès Mathieu Daudet. C'est recommandé à partir de 7-8 ans. Et je rappelle aussi le titre de votre dernier roman chez Flammarion, La ligne Wallace. Dans un instant, place à la philo avec Charles Pépin, Sous le soleil de Platon.